RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, le pape François est au Pérou avec au programme une incursion en Amazonie dans le sud-est du pays, une étape phare de son voyage, et la population de la région de Madre de Dios l'attend de pied ferme. Le pape qui insiste dans son encyclique Laudato Si sur la nécessité de protéger et préserver notre maison commune, notre planète, arrive dans un paradis de la biodiversité menacé par les chercheurs d'or qui provoquent la déforestation et la contamination de dizaines de milliers d'hectares de forêt. Le pape en mission chez les mineurs illégaux. Grand reportage, signé Eric Sanson.
Il y a encore 20 ans, la Pampa était une zone essentiellement agricole. Bien qu'elle n'ait aucune existence légale, c'est aujourd'hui une petite ville où les mineurs viennent dormir, se réapprovisionner, faire la fête, chercher des filles qui se laisseront peloter en les poussant à boire 20 sols la bouteille de bière, 5 fois plus que le prix normal. Ici, les forces de l'ordre, les ONG et les journalistes ne sont pas les bienvenus. Cette hostilité n'est pas l'apanage des chercheurs d'or. Liée à l'activité minière, de nombreuses autorités locales la partagent. Exemple, le gouverneur régional Luis Otsuka, qui en août dernier insultait des journalistes lors d'un meeting filmé et diffusé sur YouTube par le canal 33, une chaîne locale de télévision.
Pourquoi dites-vous des stupidités? Je vais vous le dire en face, moi. Parce que vous êtes des imbéciles.
Et pour être bien clair, Otsuka termine en nous traitant de vils insectes se traînant dans la fange. Luis Otsuka a des raisons de ne pas aimer les médias. En 2013, des journalistes du programme Panorama ont demandé à parler à des chercheurs d'or. Otsuka était alors président de la Fidemine, l'organisation qui les regroupe. Sans savoir qu'il était filmé en caméra cachée, Otsuka a demandé aux mineurs de mentir, de ne pas reconnaître qu'ils utilisaient du mercure, et pire, qu'ils l'avaient jeté dans la rivière. Pour rentrer dans les zones minières illégales, mieux vaut donc éviter de se présenter comme journaliste. En l'occurrence, une pluie diluvienne aide à décourager les trop curieux. Je suis accompagné d'un mineur repenti, Juan Martín Arias.
Me llevaron a trabajar a la minería Huaypuete, pero no me gustó ese trabajo porque la verdad.
Ils m'ont amené dans la zone de Huaypuete pour travailler, mais je n'ai pas aimé. J'étais machetero, je nettoyais le terrain avant l'arrivée des machines. Je coupais des arbres immenses, les animaux partaient. En vérité, on détruisait la forêt pour permettre l'entrée des bulldozers. J'ai tenu un mois. Ensuite, j'ai appelé ma mère à Lima. Je lui ai dit que je travaillais dans les mines, que je marchais sur le mercure. Et elle m'a dit de partir, que j'allais tomber malade. Donc je me suis retiré.
Durant la visite, seul le portable permet de faire quelques enregistrements. Discrétion oblige, avec tout de suite quelques surprises.
Et comment est-ce qu'il y a une piscine ici?
C'est les mineurs qui l'ont construit pour avoir plus de revenus. On ne s'ennuie jamais ici. Là, tu as un salon pour danser, un terrain de foot synthétique protégé de la pluie.
Il y a déjà des hommes qui boivent.
Oh, c'est tout le temps ici. Là, tu as des bars à filles, de la drogue si tu veux.
Au bord de la route transocéanique, un mineur est revenu d'une concession pour faire des courses et dépenser les quelques grammes d'or qu'il a amassés dans la journée. Normalement ouvrier de la construction, il explique être devenu mineur faute d'alternatives dans d'autres secteurs.
En ce moment, la situation économique n'est pas bonne. Il y a des saisons comme cela. C'est pareil partout au Pérou. Moi, comme travailleur, j'ai toujours vécu comme ça. En plus, maintenant, avec l'arrivée de l'hiver et des pluies, il n'y a pas autant de travail formel, légal, qu'en temps normal.
La Pampa, pourtant, ne donne pas l'impression d'être en crise. Ici, rares sont ceux qui se préoccupent de l'impact de l'activité minière. Ils ont d'autres besoins, selon Juan Martín Arias.
Tant qu'ils croient qu'ils vont sortir 10 ou 20 grammes d'or et qu'ils vont gagner leur pourcentage, 1 ou 2 grammes par jour, ils sont contents. S'ils sortent 50 grammes par jour, il y a 25% pour les 4 travailleurs. S'ils sortent 30 grammes, ils divisent 10 grammes. Ils gagneront un petit quelque chose, mais s'ils sortent 1 ou 2 grammes, le patron ne leur donne rien, juste de quoi manger.
De la ville de La Pampa, il faut louer une moto-taxi pour se rendre dans les zones d'activité minière proprement dites. Des péages ont été installés par les mineurs pour ne pas laisser rentrer n'importe qui. Juan Martín est connu et facilite le passage jusqu'à ces paysages déprimants que le pape ne verra que d'avion. Une terre jadis fertile que la fièvre de l'or a transformée en un désert de monticules et puis remplie d'eau boueuse où des hommes s'activent dans des conditions infrahumaines.
C'est la zone la plus grande ?
C'est la zone d'exploitation la plus importante. Ils sont en train d'exploiter dans la zone d'amortissement de la réserve de Tampopata.
Et pourquoi les gens disent qu'il y a moins d'activité minière ?
C'est interdit, ils n'ont pas le droit d'entrer normalement. Il y a plus de 100 000 mineurs illégaux dans la région, c'est un mensonge. À Madre de Dios, il y a de l'activité minière partout, à la Pampa, Delta 1, Colorado, Laberinto, Mazuco. Et il y en a aussi vers le Brésil. Ils veulent aussi exploiter dans la réserve de Tambopata. Mais là, les autorités la protègent.
Cette réalité n'a pas ému grand monde, en tout cas en dehors du Pérou, jusque tout récemment. C'est en effet en 2014 que des images satellites ont montré la dévastation provoquée par la fièvre de l'or dans la région de Madre de Dios. Si l'opinion publique internationale s'est alors mobilisée, pour le père suisse Xavier Arbex, il n'y a rien de nouveau depuis son arrivée au Pérou au début des années 70.
Dans la forêt vierge, j'ai découvert l'exploitation des jeunes, des enfants pour les chercheurs d'or. C'était du artisanal, il fallait qu'ils fassent 100 brouettés par jour pendant 90 jours. Pendant 3 mois, et avec ça, ils gagnaient s'acheter leur cahier pour l'année scolaire. C'était ça. Mais beaucoup ne revenaient pas. Beaucoup y restaient.
En première ligne, pour protéger l'écologie exceptionnelle qui avait lu à Puerto Maldonado le titre de capitale de la biodiversité péruvienne, les 7 peuples indigènes regroupés en 36 communautés au sein de la FENAMAD, la Fédération indigène de Madre de Dios. 10 communautés sont déjà touchées par l'activité minière. Il y a donc urgence, selon Julio Cusurici, le président de la FENAMAN, qui va en parler au pape.
On va lui présenter un manifeste qui résume la situation des peuples indigènes. On va proposer des alternatives, des actions concrètes que pourraient suivre le gouvernement péruvien et les pays étrangers. On souhaite que l'apport des peuples indigènes pour conserver nos territoires soit beaucoup plus visible. On a le sentiment que nous faisons beaucoup pour protéger l'Amazonie, pour diminuer les effets du changement climatique, mais on ne reconnaît pas nos efforts, on ne nous prend pas en compte.
Selon l'évêque de Puerto Maldonado, David Martinez Aguirre, les indigènes de la région ont toutes les chances d'être écoutés par le pape, qui ne fait pas un mystère de l'importance pour lui de cette rencontre. Alors que Jean-Paul II s'était déjà rendu en Amazonie, mais à Iquitos, plus au nord, cette nouvelle visite n'est pas un hasard, surtout après la publication de l'encyclique Laudato Si, en faveur de la sauvegarde de notre planète. David Martinez.
Nous attendons du pape un message et des mots d'espoir. Il y en a ici qui pensent que le pape vient avec un message écologiste, comme s'il avait oublié la souffrance de la population, de ceux qui ont besoin de survivre. Le pape ne vient pas avec un message venu d'autres latitudes, avec la vision écologique d'un monde occidental qui a résolu une grande partie de ses problèmes. Or, le pape a toujours été très clair. Il sait que nous vivons tous la même crise socio-ambientale et qu'il nous faut tous écouter le cri de la nature et le cri des pauvres. Le pape a écouté ce cri, sans le moindre doute.
Selon Juan Martín Arias, qui les fréquente régulièrement, les mineurs seront cependant difficiles à convaincre.
Si? Oui,
ils disent que le pape va exterminer l'activité minière, qu'elle va disparaître parce qu'il en aura donné l'ordre. C'est ce qu'ils disent. Pour moi, heureusement qu'il vient nous bénir. Il vient découvrir la pauvreté ici. Ici, le gouvernement régional et les maires ne font rien. J'espère qu'au moins ils écouteront le pape, et pas seulement pour éviter la destruction de la forêt, mais pour tous les autres problèmes, comme la prostitution, la drogue.
Ces problèmes sociaux, un homme les connaît bien. Oscar Guadalupe est le directeur de l'association Warayo. Il est installé dans le secteur minier de Mazuco depuis 20 ans.
L'activité minière est le fait des hommes. Il en est passé ici 50 000, voire plus. Donc l'unique distraction est l'alcool et le sexe. Dans la forêt, il n'y avait rien de ce genre, donc des gens s'en sont rendus compte. Il y avait de la demande et ils ont commencé à ouvrir des bars, que nous appelons plutôt des prostibars.
Avec la montée en flèche des maladies vénériennes, le problème va vite s'aggraver.
Les hommes ont commencé à avoir peur de tomber malades et ils ont demandé des filles de plus en plus jeunes. Ici, une fille à 24-25 ans a déjà une longue expérience sexuelle et il est probable qu'elle soit porteuse de maladies. Donc les clients ont voulu des filles mineures et des trafiquants ont commencé à les recruter. À l'époque, on parlait d'exploitation laborale. Mais nous, ici, nous avons vu apparaître le problème de la traite de personnes avant même que le concept ne soit reconnu comme un délit dans le code pénal.
Une précocité qui ne lui a pas valu que des amis.
Les médias parlent beaucoup plus des problèmes d'écologie que des problèmes sociaux. Comme si les gens valaient beaucoup moins que l'or que l'on sort de la terre. Comment est-ce possible? Il y a 4 ans, nous avons été menacés. On a tiré sur les murs du foyer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai quitté Mazuco pour venir vivre ici, à Puerto Maldonado. Ils avaient peur que nous poussions les filles à témoigner. Et donc les insultes étaient permanentes.
Tuvieron disparos ahí en la pared de las oficinas. Insultos como siempre.
Cette forme d'esclavage moderne est toujours présente dans la région, malgré les opérations militaires qui, de temps en temps, essayent de limiter un peu la progression des concessions minières. Même s'il a toujours combattu leurs excès, le père Arbex a le respect des chercheurs d'or, qui, d'après lui, ont leur place, bien ou mal, dans la région.
J'ai écrit plusieurs articles en disant « Non, on ne peut pas mettre comme ça 15 à 20 000 chercheurs d'or dans la nature pour qu'ils deviennent des délinquants, pour qu'ils ne savent pas où aller ». Alors il faut essayer d'atténuer les impacts écologiques. Et alors il y a plusieurs propositions. Donc proposition pour récupération du mercure, ça existe, c'est facile. Proposition qui n'existe pas et que personne n'en parle, c'est la récupération des huiles de vidange des moteurs. C'est des milliers de moteurs de gros calibre, de camions qui pompent, qui font l'érosion, etc. Et ils changent d'huile toutes les semaines. C'est des Amoco Cadiz qui mensuels ici.
Sachant que l'exploitation va continuer, des scientifiques se sont alliés pour évaluer les dégâts et essayer de récupérer ce qui peut encore l'être. Sous l'égide du WWF, de l'université américaine Wake Forest et du centre d'innovation scientifique amazonien CINCIA, un programme de restauration de sols dégradés est en cours et un laboratoire mercure a été installé, coordonnée par Claudia Vega.
Il y a une différence significative du niveau de mercure dans les poissons, par exemple. Dans le manou, les niveaux sont bas, alors qu'ils sont beaucoup plus élevés dans les poissons capturés dans les fosses minières remplies d'eau. C'est surtout dans les poissons carnivores que les concentrations de mercure sont supérieures.
Dans la zone minière de Laberinto, une autre expérience est en cours. Car avant de reboiser les zones détruites par l'exploitation minière, encore faudrait-il savoir comment faire. Ce jour-là, Edith Condori du WWF et France Cabanillas de CINCIA se rendent sur la concession Paulita Dos de Pedro Infante. Ce mineur souhaite légaliser sa concession de 400 hectares qu'il est censé reboiser. Il a mis ses terrains et ses travailleurs à disposition pour que des essais de plantation soient menés. Sur un terrain d'un hectare et demi qui n'est plus exploité, et en sa qualité de coordinateur du projet de restauration et reboisement des terrains dégradés par l'activité minière, France Cabanillas se penche sur des arbres et des arbustes de taille et d'espèces différentes.
Il y a 3 zones de traitement. Dans la première, nous utilisons du biocharbon pur. Dans la deuxième, le biocharbon est enrichi avec des éléments nutritifs, du biol, une sorte de fertilisant organique et des micro-organismes intelligents qui accélèrent la création des conditions favorables à la plante. La troisième zone est le contrôle, c'est-à-dire la plante sans rien.
Pour l'heure, les plantes semblent bien réagir au biocharbon enrichi, mais là encore, il faut donner du temps au temps, explique Edith Condori. Signe encourageant, certaines fosses remplies d'eau ont pris une couleur plus normale et des arbres ont pris pied, y compris sur les monticules de déchets.
La nature va commencer à se régénérer toute seule. Certaines espèces parmi les plus résistantes vont pouvoir pousser dans les sols dégradés, mais il faut aider les autres, améliorer les sols pour récupérer la diversité biologique. Il faut donner un coup de main à la nature pour que toutes les espèces aient une chance de pousser.
Ici, la zone reboisée ne sert qu'aux études scientifiques. À 2 heures de route dans la ville de Masuco, la mairie du district d'Inambari a décidé de se lancer et de reboiser quelques 80 hectares de zones contaminées. Elle est aidée par le WWF et CINCIA qui ont installé une pépinière ultra moderne avec des dizaines d'espèces locales et quelques exotiques. France Cabanillas.
Ici, on a un pin, par exemple. Là, c'est un eucalyptus. Pourquoi utiliser des espèces qui ne sont pas d'ici? Eh bien, parce qu'il faut motiver les mineurs qui acceptent de reboiser. Dans 10-12 ans, par exemple, ces arbres pourront être coupés et le bois vendu.
À Madre de Dios, le pire n'est donc pas nécessairement inévitable. De nouvelles pépinières et des installations de biocharbon pourraient accélérer le reboisement des zones dégradées par l'exploitation minière. Reste que l'essentiel est ailleurs. Accélérer la formalisation des mineurs, éviter l'extension des concessions vers les zones protégées, lutter contre la traite de personnes, c'est là le travail de l'État et c'est là que le bât blesse, regrette Oscar Guadalupe.
Il y a beaucoup de choses que l'État ne fait pas. Il pourrait mieux contrôler les combustibles utilisés pour les mineurs, ou alors mieux contrôler les ventes de mercure. Ce sont les éléments de base sans lesquels il n'y a pas d'activité minière. Comment l'État pourrait-il ignorer qui vend les engins de terrassement? Il y a ici toute une industrie qui vit de l'activité minière informelle.
À Puerto Maldonado, le père Arbex n'est pas non plus très optimiste.
Les chercheurs d'or ont leur propre manière de travailler, leur propre loi, leur propre moyen de pression, leur mafia. Et bien sûr que les personnes de haut niveau participent aussi à ces mafias. En réalité, les lois existent et elles ne sont pas appliquées parce que tout se fait dans les coulisses. Tout se fait, la traite des personnes, la traite du combustible, la vente du mercure, l'acheminement de l'or, l'or avec le dollar, l'or avec la drogue. Tout ça va ensemble.
Ces dernières années, plusieurs opérations militaires ont détruit ces barges gigantesques qui provoquaient des dégâts considérables sur le lit des fleuves. Il n'y en a plus aujourd'hui à Madre de Dios. Comme quoi, quand on veut, on peut, et beaucoup espèrent que la visite du pape Francisco pourra alimenter les bonnes volontés et lancer Madre de Dios sur la voie de la récupération. Grand reportage à Puerto Maldonado, Eric Sanson, réalisation Pierre Chaffranjon. I'm thirsty, I'll give you what you want if you want it. You got my full attention, I'm different, do ride on you so you don't go crazy. Crazy on me, you won't change me. No taming on the child, but you'd love to. I'm a lot like my daddy, still want me now. Do ya, do ya now. I'm gonna make you right. Is that easy? You're not just somebody. Don't you worry about me. I'm gonna make you right.
Trouble, you know. I'm gonna make you right.